Il y a 20 ans, naissait à l'initiative de trois physiciens l'aventure de la main à la pâte. L'objectif de cette association était de transformer en profondeur l'enseignement scientifique dès l'école primaire. Et très rapidement, la main à la pâte a pris une dimension internationale et ses principes se sont étendus aux élèves du collège. 20 ans plus tard, elle fête son anniversaire à la Sorbonne, aujourd'hui même. Il y avait un colloque ce matin sur l'éducation des sciences à l'école avec des spécialistes venus du monde entier. Certains d'entre eux, avant de repartir, font le détour par la tête au carré pour nous dire quelles sont les initiatives prises dans leur pays et qui ont contribué à encourager la curiosité scientifique des enfants et des adolescents. États-Unis, Chili, France et Mali, un tour du monde made in la main à la pâte. L'émission étant exceptionnellement enregistrée, nous ne pourrons pas recevoir vos messages comme d'habitude. À la une de la science aujourd'hui, Axel Villard, une démonstration importante sur les capacités cognitives des grands singes. Et bonjour à vous.
Bonjour Mathieu. On verra que comme les humains, les chimpanzés sont conscients de leurs propres limites. On appelle ça la métacognition. On vous explique avec nos invités dans un instant pour la une.
Et Violaine Balay est aux commandes de cette émission aujourd'hui qui a été préparée par Lucie Sarfati et Thomas Delosier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les 20 ans de la main à la pâte avec donc un anniversaire qui se fête en ce moment même à la Sorbonne. Et aujourd'hui, dans la tête au carré, un plateau exceptionnel avec des membres venus du monde entier, donc de la main à la pâte. Pierre Léna, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien, membre de l'Académie des sciences, cofondateur et président aujourd'hui d'honneur donc de la fondation La Main à la Pâte. Et vous êtes venu accompagné d'amis de la main à la pâte qui viennent donc des États-Unis, du Chili, du Mali pour parler avec nous de l'éducation aux sciences. L'histoire de la main à la pâte, ça commence chez les gangsters en réalité, car c'est à Chicago que tout a démarré, c'est ça l'histoire.
C'est un voyage initiatique que Georges Charpak a fait pour rencontrer son ami et collègue, autre prix Nobel de physique, Léon Lederman. En 1995, exactement, nous sommes ces jours-ci, le 20e anniversaire de cette rencontre, où nous avons découvert dans les ghettos noirs du centre de Chicago combien... À l'initiative de Lederman, la science éveillait le regard, la curiosité, la passion d'élèves qui autrement abandonnaient rapidement l'école.
Ouais, et cet exemple américain tout de suite vous a beaucoup intéressé, vous a dit il faut absolument faire quelque chose en France.
Voilà, je crois que le rêve de Georges Charpak, c'était d'être le meilleur partout. Donc s'il pouvait être meilleur que Léon Lederman, il allait essayer.
Il a pas mal réussi, c'est ce qu'on verra avec vous. La France, et puis ensuite les autres pays du monde, c'est pour cette raison qu'on se retrouve aujourd'hui, parce qu'il y a énormément d'exemples dans plusieurs cultures.
Voilà, et les amis qui sont là ce matin nous ont appris beaucoup. C'est pas nous qui les avons guidés, ils nous ont aussi appris comment faire.
Ouais, tour du monde, donc des réussites de l'enseignement des sciences à l'école. Dans un instant avec Bruce Alberts qui vient des États-Unis, Rosa Deves du Chili, Ogabara Dumbo qui est du Mali et Elena Pasquinelli. On se retrouve ensemble, Pierre Léna, tout à l'heure pour fêter ensemble les 20 ans de la main à la pâte. Et à la une de la science aujourd'hui, des chimpanzés qui sont conscients de leurs propres limites. On va vous expliquer tout ça. C'est une nouvelle capacité cognitive découverte par des chercheurs new-yorkais chez notre cousin primate et qui est appelée la métacognition. Et pour en parler, nous sommes par téléphone avec vous. Sabrina Krief, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes primatologue et maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et puis Jérôme Grenèche est également au bout du fil. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes journaliste scientifique, spécialiste des primates et docteur en psychologie cognitive. Jérôme Grenèche, comment ces chercheurs ont fait justement pour mettre en évidence donc cette métacognition chez le chimpanzé et puis qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Alors la métacognition globalement c'est vraiment le fait de penser sur ses propres pensées, c'est-à-dire en gros de connaître et de contrôler ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas et également de rechercher l'information qu'on a besoin de connaître. Donc ça se réfère vraiment à une prise de décision contrôlée qui entraîne une réaction comportementale qui est indépendante de l'influence ou du contrôle de stimuli externes. C'est plutôt d'utiliser des signaux psychiques pour pouvoir résoudre des problèmes. Et donc la façon dont les chercheurs ont conduit cette étude est assez originale, c'est-à-dire qu'ils ont proposé une série de tâches informatisées, donc de mémoire immédiate, sans la présence d'un expérimentateur, et ces tâches ont été proposées à trois individus, donc qui devaient, à l'aide d'un joystick, choisir quatre propositions sur un écran, l'item cible qui leur a été présenté au préalable. Donc c'était sur la base de lexigramme, donc des symboles qui sont associés à des significations, à un vocabulaire chez l'humain, ainsi que des photos. Et donc, ils ont mesuré leur performance en mémoire lorsqu'ils devaient comparer une photographie à des lexigrammes connus ou non. Et en faisant ainsi varier la charge en mémoire et le temps de mémorisation des chimpanzés, ils ont pu manipuler la force et la faiblesse de leur capacité en mémoire pour les pousser, en fait, à faire des erreurs en dehors de leurs bonnes réponses. Tout ça pour, en fait, montrer que ces chimpanzés, quand ils répondaient correctement, eh bien, anticipaient le signal sonore qui leur indiquait qu'ils avaient bien répondu pour aller chercher dans une autre pièce la récompense alimentaire. Donc, ce comportement de déplacement anticipé montre qu'ils ont fait confiance dans leur jugement pour ainsi aller chercher la récompense.
Et c'est la première fois qu'on l'observe chez le chimpanzé.
La capacité métacognitive a déjà été pointée du doigt à travers quelques travaux de recherche, notamment depuis 2001 avec les travaux de Joseph Cole. Mais disons que là, le protocole est très original pour avoir permis de mettre en évidence cette capacité de façon non équivoque.
Sabrina Krief, on trouve des exemples de cette métacognition dans la nature quand on observe les chimpanzés ?
Alors, les auteurs en fait signalent que les chimpanzés sauvages peuvent avoir ces capacités par le biais en fait d'évaluation de distance entre des branches pour passer d'une branche à l'autre, ou encore dans leur décision d'aller se déplacer longuement pour trouver des arbres en fruits. De notre côté, en fait, on observe que les chimpanzés sont capables d'évaluer leur capacité par la vigilance qu'ils montrent. Un exemple, quand les chimpanzés, par exemple, vont traverser la route, c'est le cas sur notre site d'études, en fait, il y a une grande route bitumée qui traverse leur territoire.
En Ouganda.
Les chimpanzés vont devoir prendre en compte le risque de la traversée. Et donc, on observe effectivement que les individus les plus vulnérables traversent moins la route que les individus qui semblent avoir une meilleure confiance dans leur capacité à traverser la route, même s'ils regardent à 90% toujours à gauche et à droite avant de traverser.
Sabrina Krief, les trois chimpanzés de l'étude, là, étaient des singes, on peut dire, super entraînés, qui ont l'habitude de ce genre de test de mémoire. Est-ce que c'est un biais, au fond, dans ce travail scientifique ou pas ?
Oui, bien sûr, mais les auteurs en sont conscients, hein, puisqu'ils travaillent d'abord sur deux chimpanzés relativement âgés, un mâle et une femelle de plus de 40 ans, et ensuite ils introduisent un troisième individu plus jeune qui n'a pas été autant entraîné que les deux premiers, et ils remettent en cause leurs expériences en augmentant la difficulté de l'effort, etc. Donc évidemment, c'est un tout petit échantillon, trois individus, sont des chimpanzés qui ont l'habitude de faire ces tâches, ils essayent, les auteurs justement, de faire varier ces tâches pour ne pas rentrer dans une conformité des réponses, et de toute façon, même en milieu naturel, on observe que certains individus ont des capacités cognitives plus développées que d'autres. Donc évidemment, ces manies devraient être répétées sur de grands nombres d'individus et des individus moins entraînés que ceux-là.
Jérôme Grenèche, quel type d'avantage cela ouvre d'avoir ce recul sur ses propres capacités ?
Alors en fait, ce qui est particulièrement intéressant dans cette étude, c'est justement le lien entre la métacognition et le fonctionnement qu'on appelle le fonctionnement exécutif en psychologie cognitive, c'est-à-dire les capacités mentales de haut niveau qui permettent d'ajuster ses comportements en fonction des situations. Donc là, l'avantage que peuvent en tirer les chimpanzés, c'est d'une part donc d'augmenter leur niveau de performance, d'anticiper donc évidemment sur l'accès à des ressources alimentaires, donc ce qui confère beaucoup d'avantages sélectifs. Mais disons que ce qui est surtout intéressant, c'est le fait de pouvoir optimiser ses performances et de les ajuster en fonction des situations. Donc ça permet vraiment une grande flexibilité mentale, et ce qui est très important pour des espèces comme les chimpanzés qui vivent au niveau social dans une hiérarchie très complexe et qui doivent calculer en temps réel de nombreux comportements, de nombreuses alliances. Donc il est important qu'ils puissent se reposer sur leur propre connaissance de leur capacité cognitive.
Sabrina Krief, on prête de plus en plus des traits intellectuels humain au grand singe. Qu'est-ce qui nous différencie en fait avec nos cousins fondamentalement dans notre façon de raisonner ?
Probablement le fait que les chimpanzés sont assez conformistes justement, et que effectivement la pression qu'ils subissent de la part de leur environnement, de l'extérieur, est le moteur d'une évolution, mais malgré tout il y a assez peu d'innovation dans le comportement quotidien des chimpanzés. Ce qu'on peut voir, et ce qui est assez intéressant, c'est que dans le cas aussi de notre zone d'étude où la pression des activités humaines est très forte, les chimpanzés ont à s'adapter à cette pression. Et par exemple, en plus de cet exemple de la route que je viens de citer, les chimpanzés peuvent obtenir des ressources supplémentaires par le biais de pillages, des cultures qui se trouvent à proximité de leur territoire. territoire. Mmh. Et on a vu donc dans cette zone que les chimpanzés pouvaient devenir nocturnes, quelque chose qui est complètement nouveau. Oui. Mais pour éviter la vigilance des gardiens, en fait, ils vont adapter leur comportement. Cette flexibilité importante va leur permettre de pouvoir obtenir des ressources nouvelles.
Voilà, donc on n'a pas fini de...
Tout, ouais. Voilà, malgré tout, il y a quand même une capacité à réagir à la pression d'environnement.
Et on découvre donc toujours de nouvelles capacités cognitives à nos cousins chimpanzés. Merci beaucoup Sabrina Crier. Vous revenez tout juste d'Ouganda, justement. Vous travaillez donc dans cette réserve de Kibale. Et merci également à vous Jérôme Grenèche pour ces explications sur la métacognition.
Merci à tous les deux.
Merci Axel, toujours à réécouter, bien
oui,
sûr.
Oui, on réécoute la Une en podcast et on se retrouve demain pour une nouvelle Une.
Allez, dans le reste de l'actualité, une équipe de chercheurs de l'université d'Oxford a mis en évidence le lien entre le harcèlement subi à l'adolescence et la dépression chez le jeune adulte. Pour arriver à ce résultat, 4000 patients ont été interrogés à 13 puis à 18 ans. Et conclusion, les enfants harcelés ont trois fois plus de risques d'être dépressifs à 18 ans que ceux qui ne l'ont pas été. Les auteurs mettent en garde contre les réseaux sociaux qui amplifient le phénomène et demandent un meilleur accompagnement des élèves victimes de harcèlement. Une extinction annoncée, celle des bruants auréolés, ces petits oiseaux à la poitrine jaune que l'on peut trouver au nord-est de l'Europe et en Asie. Selon une étude cette semaine, leur nombre a chuté de 90% en 30 ans. L'animal pourtant protégé depuis des années est toujours vendu en grande quantité dans les marchés noirs pour sa viande. Et puis pour finir, survoler la planète naine Cérès, c'est désormais possible grâce à une vidéo publiée par la NASA cette semaine. Cérès qui est située dans la grande ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Sa modélisation 3D a été réalisée grâce aux 80 clichés pris par la sonde Dawn gravitant autour d'elle. Et vous pouvez, comme d'habitude, retrouver la vidéo de ce survol sur la page Facebook de La Tête au Carré. Dans un instant, les 20 ans de la main à la pâte. Hey Joe, Jimi Hendrix sur France Inter, bien sûr.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Nous baignons dans la technologie, mais nous baignons beaucoup dans l'obscurantisme et dans l'irrationnel. Et si vous prenez un pays comme la France, il y a plus de la moitié des citoyens qui croient dans les phénomènes paranormaux, l'astrologie, les petits hommes verts qui débarquent d'autres planètes, c'est-à-dire des enfantillages. Et cela en même temps que la science est en train de bouleverser nos vies. Et le meilleur remède contre les intégrismes et les obscurantismes, c'est l'esprit scientifique. Et l'esprit scientifique, il faut l'inculquer dès le plus jeune âge. Quand les enfants ont 5 ans, ils sont ouverts sur le monde, ils ont envie de comprendre comment marche le monde. À ce moment-là, il faut que l'éducation utilise la curiosité des enfants. Et la main à la pâte est une tentative pédagogique pour introduire, dès l'âge de 5 ans, des expériences qui développent chez les enfants la curiosité et développent leurs dons. Et cette génération-là, elle ira volontiers faire des études scientifiques, et quand elle entendra des bobards par des obscurantistes, ils se tapoteront le menton parce qu'ils sauront ce que c'est qu'une hypothèse, la vérification d'une hypothèse.
Voilà, et c'est la voix du prix Nobel de physique Georges Charpak et les 20 ans donc aujourd'hui de la main à la pâte, avec un anniversaire qui est célébré en ce moment même à la Sorbonne. Et à cette occasion, la Tête au Carré reçoit donc un plateau d'invités venus du monde entier pour parler des initiatives qui ont permis de faire avancer l'enseignement des sciences dans différents pays du globe. À mes côtés donc, Pierre Léna, vous êtes astrophysicien, président d'honneur donc de la fondation La Main à la Pâte. Alors vraiment, vous nous avez amené des amis du monde entier hein, aujourd'hui. On va faire un premier tour de table avec Bruce Albert. Vous pouvez nous le présenter peut-être ?
Bruce Albert, c'est un homme extraordinaire, comme tous ceux qui sont là ce matin. C'est un spécialiste de biologie moléculaire, grand professeur connu par ses ouvrages des étudiants du monde entier. Il a été 12 ans président de l'Académie des sciences américaines.
Oui.
Et un promoteur de l'enseignement, de l'éducation à la science par des méthodes nouvelles, celles mêmes de la main à la pâte.
Bonjour Bruce Albert.
Good afternoon.
Je voudrais également préciser que vous avez été éditeur en chef de la prestigieuse revue Science et qu'au sein même de cette revue, vous avez fait un effort très très important sur l'éducation des sciences auprès des plus jeunes. On en parlera avec vous tout à l'heure. On poursuit le tour de table, Pierre, avec Rosa Deves, qui est chilienne. Buenos días.
Muy buenos días.
Vous nous présentez Rosa.
Rosa Deves est également une amie qui est depuis plus de 10 ans maintenant au Chili, en particulier dans les quartiers les plus pauvres de la ville de Santiago. Et pour avoir visité les écoles, je peux vous assurer que les conditions de travail y sont difficiles. A mené un programme magnifique, donc qui s'est étendu à l'ensemble du Chili, qui s'appelle « Enseigner la science sur la base de l'investigation, la recherche ».
Et Rosa Deves, vous êtes biochimiste, spécialiste de physiologie et cellulaire, vous êtes vice-présidente de l'Université du Chili, et votre présidente chilienne est en ce moment même d'ailleurs à Paris. Ogabara Dumbo, bonjour.
Bonjour.
Vous venez du Mali, vous êtes biologiste et médecin spécialiste du paludisme. Vous avez été le premier lauréat en 2007 du Grand Prix Rodolphe et Christophe Mérieux de l'Institut de France. Vous avez présidé pendant 10 ans le département d'épidémiologie de la faculté de médecine de Bamako. Et aujourd'hui, vous dirigez le centre de recherche et de formation sur le paludisme.
Oui.
La main à la pâte, c'est une réalité déjà pour vous au Mali ou c'est en devenir ?
C'est les deux en même temps. Parce que cette formation par l'observation et l'expérimentation est une tradition d'Ogon. Je suis du pays d'Ogon.
Oui.
Et quand j'ai découvert ce programme, ça sera un continuum de ce TC traditionnel qui va être monnayé dans une approche nouvelle pour qu'il y ait une masse critique de jeunes Maliens qui puissent accéder à la science et à la technologie.
Oui. Et dès le primaire aussi ?
Et dès le primaire.
C'est un moment qui est tout à fait délicat aussi pour la scolarité des enfants en Afrique ?
Absolument, c'est une opportunité parce que la curiosité juvénile à cet âge peut être convertie vers une pensée logique, oui, scientifique et très tôt. Et
évidemment, ça vous intéresse d'être ici en France en ce moment aussi pour rapporter peut-être des idées ?
Absolument, la France est mon deuxième pays parce que j'ai fait mes études, une partie au Mali et une seconde partie en France.
Oui. Et on verra l'importance de l'éducation aux sciences sciences dans le domaine de la santé et du paludisme en particulier pour
Absolument.
Vous. Et puis enfin, Elena Pasquinelli, bonjour.
Bonjour Mathieu.
On pourrait parler en italien avec vous.
Si vous voulez, je suis prête.
Mais vous parlez parfaitement le français. Vous êtes chercheur en philosophie et sciences cognitives. Vous êtes professeur à l'École normale supérieure de Paris, membre de l'Institut Jean Nicot. Et vous avez publié Du labo à l'école, sciences et apprentissage aux éditions du Pommier. On va s'intéresser avec vous au cerveau aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans ce domaine.
Absolument. On en sait de plus en plus et on sait maintenant que c'est vraiment un genre de connaissances, un domaine de connaissances qui peut apporter énormément à l'éducation. Il y a des choses que les enseignants n'ont plus le droit de ne pas connaître à propos du fonctionnement de l'apprentissage du cerveau de leurs élèves et de leur cerveau même, parce qu'ils en ont un aussi.
C'est ça, c'est ce que dit Stanislas Dehaene en particulier.
Hein.
Il faudrait enseigner le cerveau d'abord aux professeurs. Pierre Léna, on parlait du démarrage de la main à la pâte tout à l'heure, donc en 1995 à Chicago, donc avec Georges Charpak et Yves Quéré. C'est en fait l'Académie des sciences qui lance officiellement ce programme. Ça n'est pas une association justement, la main à la pâte, c'est une fondation. Vous allez créer une association des amis de la main à la pâte bientôt, mais au départ, c'est l'Académie des sciences donc, qui lance le projet.
Georges Charpak avait, vous nous l'avons entendu tout à l'heure, une force de conviction extraordinaire. Et il a d'abord convaincu François Bayrou, alors ministre de l'Éducation nationale, de lancer une mission à Chicago, où d'ailleurs Xavier Darcos, qui fut ministre plus tard, nous accompagnait également, mais aussi Bertrand Schwartz et d'autres personnalités.
Oui.
Et puis, très rapidement, en revenant, l'Éducation nationale accepte de créer quelques centres prototypes. Et c'est alors le début. Georges présente à l'Académie des sciences ce qu'il veut faire. Et un vote unanime, le 6 juillet 1996, va lancer l'Académie sur le projet, et depuis, elle n'a pas ménagé son soutien et sa présence.
Ouais, mais quel est le constat, au fond, à l'époque, pour que vous ayez envie de vous mobiliser à ce point ?
Ah, le constat est très brutal. Après 1985, où Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Éducation nationale de l'époque, avait recentré l'école primaire sur trois et trois seuls objectifs, lire, écrire, compter, la science avait essentiellement disparu.
Ouais.
Donc, cette situation nous a paru, et a paru à l'Académie des sciences, à son président, à ses membres, tout à fait dommageable pour la France, et pas seulement pour la science. Et donc, ce fut le vote que vous évoquiez.
Et donc, ça commence à l'école primaire, et ensuite, ça s'est étendu au collège.
Hein, pendant 10 ans, nous avons focalisé entièrement nos efforts sur l'école primaire, à cause de cette idée que la soif, la curiosité qui vient d'être évoquée, par nos amis, des enfants et toute une fleur qui s'ouvre et qu'il faut la nourrir.
Elena Pasquinelli le disait un petit peu tout à l'heure, le but d'abord c'est d'aider les enseignants. Hein.
Alors nous n'avons jamais souhaité nous adresser directement aux enfants, nous n'avons jamais voulu faire ombre à leurs professeurs qui ont un métier, nous avons voulu aider des professeurs qui avaient peur au fond de cette science qu'ils connaissaient mal, qui avaient peur des questions même des enfants, nous avons voulu les aider à faire face en nous faisant tout petits à côté d'eux.
Elena Pasquinelli, sur les enseignants, c'est vraiment le
c'est
cœur,
vraiment le cœur,
hein,
le
du
cœur
projet.
De notre métier. Passer par les enseignants pour atteindre les enfants, mais passer par les enseignants qui sont nos médiateurs, qui sont les experts en pédagogie, qu'on n'a aucune intention de substituer, qu'aucune science, y compris les sciences cognitives, ne peuvent pas substituer, peuvent juste enrichir d'instruments, d'outils, comme d'un couteau suisse, qui leur permet de mieux s'adresser aux élèves, de mieux toucher cette curiosité. J'adore que ce mot soit si présent ce matin. Aujourd'hui, c'est vraiment un
ça
mot...
Ça a l'air de vous plaire, oui.
Ah oui, c'est vraiment un mot précieux pour moi. S'adresser à cette curiosité et être capable de la comprendre, de comprendre d'où elle naît, de quels besoins, parce que c'est un vrai besoin de science que l'enfant manifeste très 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 tôt, dès le berceau. Oui. Comprendre ce besoin de science et savoir y répondre avec des outils, avec des sollicitations, des expériences qui vont à chaque fois s'adresser au bon moment à ses capacités cognitives.
Rosa Deves, ce besoin de science aussi, évidemment, dans, par exemple, les quartiers défavorisés de Santiago, au Chili.
I think that what's important to understand is that all
ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les enfants, où qu'ils soient, ont le droit de profiter, de jouir de la science. Et ils ont besoin de science pour leur vie. Ce n'est pas simplement quelque chose pour tel ou tel groupe de la population. Pour avancer dans le monde, pour créer un monde nouveau, il faut que tout le monde puisse jouir de ce droit à la science. Il y a une autre chose importante. Nous avons tous à apprendre. C'est pas que les scientifiques, les sachants, enseignent aux enseignants qui ne savent pas. Non, c'est une courbe d'apprentissage, un processus d'apprentissage pour tous. Et nous travaillons de concert, scientifiques et enseignants.
Voilà, et nous fêtons donc cet après-midi ensemble les 20 ans de la main à la pâte. On se retrouve dans un instant pour découvrir les initiatives dans vos pays respectifs. Et c'est sur France Inter. Hier encore avec les Brigitte à l'instant sur France Inter, les 20 ans de la main à la pâte, Pierre Léna, Bruce Alberts des États-Unis, Rosa Deves du Chili, Oga Baradumbo du Mali et Elena Pasquinelli donc sont avec nous. Tout se passe en ce moment à la Sorbonne, Pierre Léna, hein, vous avez le don d'ubiquité finalement. Hein.
À la Sorbonne, c'est la grande fête, parce que nous avons voulu rassembler dans le grand amphithéâtre tous nos amis, professeurs, enseignants, inspecteurs, parents, enfants bien sûr, écoles, pilotes, et tous ceux qui, de près ou de loin, ont accompagné ces 20 ans.
Ouais. Bruce Alberts, pour les États-Unis justement, c'est l'expérience américaine ou l'expérience française, au fond, qui vous a beaucoup inspiré, vous, aux États-Unis ?
Moi, ce qui m'a inspiré aux États-Unis d'abord, c'est quelque chose qui vient du Royaume-Uni en réalité. Selon le plan personnel, je travaillais dans le cadre d'une année sabbatique à Londres et je suis tombé sur des livres de Wynne Harlan, qui est présent à notre réunion, personnage très important pour ce qui est d'encourager cette science à base d'expérimentation pratique que nous recherchons. Et elle avait écrit un certain nombre de livres sur lesquels je suis tombé à Londres. Et c'était le point de départ. C'était un petit peu ça l'étincelle pour moi. Ensuite, je suis rentré aux États-Unis et je suis rentré en rapport avec un certain nombre de personnes qui travaillaient dans ce domaine. Et cela connaît une belle évolution depuis lors dans de nombreux pays. Je voudrais revenir sur quelque chose qu'a dit Rosa. Nous sommes tous en train d'apprendre et nous devons améliorer nos connaissances en permanence, qui que nous soyons et où que nous soyons. Au cours des 10 dernières années, nous avons appris que nous devons changer non seulement l'éducation de la science au niveau des premières classes ou des premiers âges, mais l'éducation de la science au niveau de l'université. Là, il ne s'agit pas simplement de parler aux étudiants ex cathedra. Là aussi, il faut que ça soit un processus d'apprentissage actif. Parce que si on ne mène pas les choses de cette façon, ce sera ô combien ardu de faire une contribution aux enseignants qui enseignent aux enfants. C'est difficile d'enseigner si on a mal appris les choses.
Bruce Alberts, vous avez été éditeur en chef de la revue Science. À quel moment, justement, vous avez ouvert la revue aux questions d'éducation?
Nous
avons intégré dans le magazine Science des études sur l'éducation des sciences, parce que l'éducation, c'est une science, évidemment. De même que l'on étudie la physique ou la biologie, et nous devons employer les mêmes méthodes scientifiques pour essayer de comprendre comment les enfants apprennent. Et par conséquent, un journal scientifique aussi prestigieux que Science doit s'intéresser à l'éducation de la science, pour que ce type de recherche ait un profil plus visible et puisse être appréhendé par le plus grand nombre. Et c'est une question de prestige aussi. Nous voulons que les gens qui travaillent dans l'éducation des sciences bénéficient du même prestige que tous les scientifiques.
Ouais. Sauf que, Elena Paskinini, hélas, c'est pas une science exacte, l'éducation, hein.
L'éducation, ce n'est pas une science exacte, mais qui se nourrit des sciences, qui sont des sciences à titre complet, comme les sciences cognitives. Mmh. C'est une science qui peut faire des expériences de terrain. On vient de s'y lancer, nous aussi, avec des laboratoires de recherche, naturellement, pas tout seul. Des laboratoires de recherche en psychologie, comme celui d'Olivier Houdet, le LabSidé, et d'autres laboratoires, l'École d'économie de Paris. On peut avoir un bon degré d'exactitude. On a toujours peur qu'il y ait trop de facteurs qui jouent dans l'éducation. Elle est tellement compliquée. Mais comme dans tous les domaines scientifiques, on peut arriver à identifier des petites questions et petit à petit construire un savoir qui grandit. On ne peut pas renoncer à cette capacité de bien comprendre quels sont les leviers de l'apprentissage et de la compréhension. Et les sciences, naturellement, nous aident à ça.
Eh bien, un exemple, par exemple, sur le terrain, dans une école, l'école Jean Moulin de Nogent-sur-Oise. On va se retrouver dans la classe de Martine. C'était il y a quelques années déjà. Lucie Sarfati avait fait un reportage, donc main à la pâte, une classe qui propose à ses élèves de réaliser une expérience devant leur permettre de visualiser l'air présent dans les poumons. Et on découvre justement cette expérience.
Qu'est-ce que c'est ça?
Un bac. L'eau avec la bouteille.
Et vous savez ce que vous allez faire avec ça?
Oui, on met le tuyau dans la bouteille et on souffle, il y a l'eau qui descend et il n'y a pas d'eau dans la bouteille.
L'air, il pousse l'eau.
Et on va voir est-ce que l'air de notre poumon, on va le voir.
Qu'est-ce qu'il fait Demba?
Il met sa bouche sur le tuyau. Et puis il souffle.
Et quand on souffle, il y a des bulles. Les bulles, c'est de l'air. Et l'air, elle pousse l'eau. Et voilà.
Alors, par rapport au module, on en était là où justement on avait compris que de l'air, il y en avait partout. Et on s'est rendu compte qu'en effet, eh bien de l'air, on en a aussi en nous, on en a aussi dans les poumons. Donc ça, c'était intéressant parce qu'au début, ce n'était pas évident pour eux au niveau des représentations des enfants de CP. Mais c'est normal. Ce sont des concepts et des notions qui se construisent sur du temps. De toute façon, même par rapport au fameux lire, écrire et compter, moi j'ajoute raisonner. Un enfant qui ne sait pas se poser des questions par rapport à ce qu'il vient de faire, ça me semble pauvre. Donc c'est vrai que lire, écrire, compter, bien entendu, mais moi j'ajouterais aussi surtout le raisonner.
Voilà, Pierre-Léna, un exemple concret parmi tant d'autres hein, de ce qui se fait à la main à la pâte, donc avec des tout-petits, là. Hein.
Oui, l'expérience la plus convaincante de la mise en œuvre de l'esprit de l'enfant et de ses mains, c'est d'aller le regarder dans une classe. Quand on voit les yeux, les mains, l'esprit des enfants s'allumer, c'est gagné.
Oga Baradoumbo, qu'est-ce qui se passe dans les écoles primaires du Mali, justement, avec ces initiatives main à la pâte?
Alors, je disais que ce que nous attendons de cette initiative, c'est vraiment une opportunité, une révolution pédagogique pour que l'enfant, très tôt, puisse être fécondé dans sa curiosité innée, pratiquement, en se posant les questions comment, les questions pourquoi, ce qui lui amène vers les évidences scientifiques et ce qui différencie fondamentalement de la croyance dogmatique. Donc, c'est là où nous pouvons former le citoyen malien de demain, qui est laïque, et qui intègre les évidences scientifiques dans son raisonnement.
Oui.
Et pour nous, c'est un bien commun, les connaissances scientifiques qui ne sont pas encore décentralisées au niveau des communautés rurales. Et cette initiative main à la pâte nous permettra de combler ce vide avec les technologies de l'information et de la communication. Je pense qu'on peut faire une révolution pédagogique dans nos pays.
Et ça, votre souhait le plus profond, c'est d'aller vraiment au cœur des villages les plus reculés pour proposer justement un autre enseignement?
Absolument. Je disais au professeur Pierre Elna que moi, je suis un enfant du village. Je viens de 1000 km de Bamako.
Ouais.
Donc, le sens de ma formation, de mon rôle d'université, c'est de ramener la science dans ces villages parce qu'il y a des esprits qui sont capables d'accéder à ce niveau de la connaissance par l'expérimentation et impacter sur la créativité du village et probablement sur la créativité nationale.
Oui.
Je crois qu'on n'a pas assez utilisé cette masse critique de potentiel qui va révolutionner le développement de l'Afrique de demain en formant très tôt ces jeunes à la science.
Ouais. C'est déjà en expérimentation dans des villages du Mali ou pas?
Ben, comme je vous le disais, il y a des enseignants qui l'expérimentent, mais aussi dans la pratique traditionnelle. Je prends l'exemple de la médecine. Je suis un fils de guérisseur et de tradit praticien. On nous apprend à observer en suivant le grand-père et comment il manipule, comment il teste. Et ceci a créé en moi la volonté de devenir médecin et ensuite à devenir un chercheur dans le domaine de la médecine.
Oui.
Parce que j'ai vu mes parents, tradit praticien, faire ça.
Oui.
Donc c'est ça qui m'a permis de me poser des questions, comment et pourquoi de ça.
Oui. Et là, c'est intéressant parce que c'est vraiment de l'expérience traditionnelle à la science officielle. Hein.
Voilà. Donc c'est pour ça que pour moi, je disais, il y a un continuum. C'est pas tout à fait nouveau dans la conception.
Oui.
Donc moi, j'ai été à l'école des Blancs, comme on dit, j'ai été à l'école des Toubabs.
Mm-hmm.
Maintenant, je ramène l'école des Toubabs à l'école traditionnelle pour qu'on puisse amplifier cette capacité d'accès à la science et à la technologie.
Rosa Deves, au fond, ça fait écho exactement aussi à ce que vous faites dans les quartiers défavorisés du Chili et dans toute l'Amérique latine d'ailleurs aujourd'hui aussi.
Yes, of course. It's a vehicle for...
Oui, cela fait écho, en effet, c'est un vecteur d'égalité. C'est ainsi que nous voyons les choses. Il s'agit de donner aux enfants. Par ailleurs, je voudrais dire que les enfants ont des idées, ils ont beaucoup d'idées en eux. Parfois, on se dit que l'esprit de l'enfant est comme un territoire vierge, mais ce n'est pas vrai. Les enseignants et les scientifiques doivent essayer de comprendre ce que pensent les enfants et se servir de ce matériau pour faire valoir les bonnes idées. Ce n'est pas chose aisée. C'est une sorte de joyau, une sorte de pépite qu'il faut découvrir dans l'esprit, dans la tête des enfants, et il faut le transformer en connaissances scientifiques.
Et vous avez lancé un programme qui s'appelle ECBI, c'est l'enseignement des sciences fondées sur l'investigation dans les quartiers défavorisés donc de Santiago, mais aussi dans toute l'Amérique latine, qui concerne aujourd'hui plus de 250 établissements sud-américains, c'est ça?
Non, 250, c'est
uniquement au Chili.
Uniquement au Chili.
Ouais.
Il y a 12 universités qui travaillent ensemble. Donc c'est un travail avec un réseau d'écoles, d'universités, et les universités travaillent en réseau entre elles. Et le programme au Chili intègre ce concept aussi, parce que aujourd'hui, maintenant, on va pouvoir toucher de nombreuses écoles, toutes les écoles du reste au niveau national en Chili.
Ouais. Est-ce que le niveau scientifique est meilleur aujourd'hui? Vous arrivez déjà à l'évaluer ou pas?
Oui, la science joue un rôle important au Chili. On part d'un niveau assez bas, mais les choses s'améliorent. Mais c'est un processus de longue haleine tout de même. Et c'est difficile de mesurer les progrès réalisés. En effet, c'est une approche systémique. Hein. Ce n'est pas simplement une expérience qu'on lance et on regarde les résultats. L'un des défis, c'est de mettre en place un bon système de mesure des progrès réalisés. Nous devons travailler là-dessus aussi.
Et la connaissance du cerveau peut permettre aussi d'avancer un peu mieux dans cet enseignement des sciences. C'est ce qu'on verra dans la dernière partie de ce dossier consacré aux 20 ans de la main à la pâte.
Cash cherry blossom by the river, flowing through the flowing of my heart. If you see me somewhere down the river, come and stand beside me, it's all right. Come to me, stay with me, say you'll be a friend to me. Blossom by the river, blowing through the flowing of my heart. I will catch you somewhere down that river. Come and stand beside me, it's all
avec Cherry Blossom.
La tête au carré sur France Inter.
Voilà les 20 ans donc de ce programme La Main à la Pâte, anniversaire aujourd'hui même à la Sorbonne, Pierre Léna, et ce qui nous renvoie 20 ans en arrière avec Georges Charpak, Yves Quéré et vous-même. Hein, c'était le trio qui a donné naissance à La Main à la Pâte. Ça représente quoi en France aujourd'hui concrètement? Combien d'écoles
en France
ont été concernées?
Au-delà, je pense qu'avec nos amis dans le monde entier, leur travail qui n'est pas le nôtre, et nos échanges, plus la France, l'Europe, ce sont probablement plus de 10 millions d'enfants qui ont appris à raisonner.
Oui. Bruce Alberts, et on va parler également de ce sujet avec vous, Elena Pasquinelli. La connaissance du cerveau, Bruce Alberts, c'est absolument essentiel aujourd'hui. Les neurosciences ont beaucoup à nous apprendre sur la façon dont on peut mieux enseigner la science aux plus jeunes.
It's a hope that neuroscience, as we understand more about the brain,
les neurosciences permettent de mieux comprendre le cerveau et les neurosciences vont certes nous aider dans nos efforts d'éducation. C'est un petit peu prématuré que d'en être incertain, mais il y a de l'espoir. Et il y a beaucoup d'études scientifiques dans le domaine psychologique sur les modes d'apprentissage du cerveau humain. Études qui sont menées en milieu académique depuis des décennies. Et en 2000, l'Académie des sciences américaines a publié un rapport important qui porte sur la façon dont les gens apprennent à l'école, le cerveau et l'esprit et l'école. Donc, des découvertes sur la façon dont on apprend, études menées à l'université, et on pose la question de savoir ce que cela veut dire pour le système scolaire, parce qu'avant, il y avait le monde universitaire où on étudiait l'apprentissage et les écoles qui n'étaient pas du tout connectées à la façon dont on apprenait les choses. Donc, c'est une espèce de passerelle qu'on a jetée. Les scientifiques, en l'occurrence les psychologues, ont pu contribuer à améliorer l'éducation de la science. Et ce rapport de l'Académie des sciences a été très populaire. Ça s'est très bien vendu, si je puis dire.
Elena Pasquinelli, c'est une réalité déjà quand même. Hein.
C'est une réalité. C'est le premier livre que j'ai lu sur sciences cognitives et éducation. Donc, c'est un ouvrage séminal pour moi aussi. J'apprécie beaucoup ce que Bruce vient de dire sur le fait qu'il n'y a pas que les neurosciences. Les sciences cognitives sont une famille très démocratique et très large de sciences qui s'occupent du fonctionnement de la cognition de l'enfant. Et j'ai apprécié beaucoup aussi ce que Rosa disait avant à propos de l'intelligence de l'enfance. Il y a une contribution très claire que les sciences cognitives ont déjà donnée à l'éducation scientifique, c'est de nous faire découvrir quelle est la richesse de l'intelligence précoce de l'enfant. On s'est longtemps raconté un peu l'histoire et même en psychologie que les enfants, les tout petits, ceux auxquels on s'adresse, hein, même à l'école maternelle, sont un peu bébêtes. Ah, sont des capacités de raisonnement limitées, sont un peu des vaisseaux vides dans lesquels on met des connaissances et des choses. Ces sciences nous ont aidés à comprendre et nous aident encore à comprendre qu'il y a une palette énorme de mécanismes d'apprentissage que dont l'enfant dispose dès le plus jeune âge et des connaissances et des questions qu'il se pose et d'explications qu'il se donne. Quand il arrive à l'école, même à l'école maternelle, on a entendu l'air, cet exemple magnifique d'activité, mais ils arrivent déjà avec toutes leurs questions, leurs observations et des expérimentations qu'ils ont menées à la maison sans notre aide. Quand dans la main à la pâte, on leur propose, ou dans les autres pays qui embrassent ce type de pédagogie, de mener des expériences, de se poser des questions, on n'est pas en train d'inventer une pédagogie nouvelle. On est en train d'aller à la rencontre de ses capacités, de ses besoins de l'enfant, de ce qu'il fait déjà. Mais on est en train aussi de l'enrichir avec quelque chose qu'il ne peut pas faire tout seul. Il a besoin d'un maître, et de plusieurs maîtres à plusieurs niveaux, pour développer ses capacités à un niveau bien supérieur, auquel on n'arriverait pas tout seul.
Est-ce que ça veut dire justement aujourd'hui que l'école n'est absolument plus adaptée au cerveau de l'enfant, tout simplement ?
C'est difficile de se prononcer de cette manière parce qu'il y a tant d'écoles en réalité. Quand on entre dans les classes, dans la pratique, qu'on voit les enseignants à l'écoute des enfants, qui sont sensibles à l'intelligence des enfants et qui leur répondent, c'est difficile de dire que l'école n'est pas adaptée.
Mais Stanislas Donen est très critique quand même. Hein,
certes, il faut faire cet effort pour créer ce pont. Ce pont entre l'éducation à tous les niveaux, les décideurs, les éducateurs, tous les acteurs de l'éducation et les autres qui travaillent sur la cognition des enfants et sur la cognition en général. Pas, comme Rosa le disait très bien aussi, pas leur déverser des connaissances, comme dans la tête des enfants, on ne déverse pas des connaissances dans la tête des enseignants, des éducateurs, mais travailler ensemble, grâce à cette nouvelle compréhension qu'on a du cerveau, de la cognition, à inventer des méthodes et des manières nouvelles pour parler aux enfants, pour parler à leur cerveau.
Rosa Deves, justement, on ne peut pas théoriser l'éducation aujourd'hui sans avoir connaissance précisément de cette réalité biologique au fond des enfants et de leur intelligence.
C'est vrai, nous avons beaucoup à apprendre par l'expérimentation. Nous devons travailler ensemble, scientifiques et enseignants. Nous menons des expériences et les scientifiques voient les choses de leur point de vue, les enseignants voient le même phénomène d'un autre point de vue. Ensuite, nous devons écouter les enfants, ce qu'ils ont à dire, et c'est à partir de ce corpus de connaissances que l'on peut faire avancer les choses. Par ailleurs, s'agissant de ce qui se passe dans les classes, il est important de voir comment les enseignants redécouvrent les enfants. Dans les classes au Chili, parfois, nous avons intégré des enfants peu nombreux qui sont un petit peu en retard par rapport aux autres. Parfois, ils ne savent pas bien écrire, qu'on soit en sixième, par exemple. Mais avec cette méthode qui emploie une palette de compétences différentes, les enseignants peuvent redécouvrir l'enfant. L'enseignant peut comprendre l'intelligence dont dispose chaque enfant, parce que chacun a une forme d'intelligence différente. Et cette méthode assez complexe, certes, peut quand même enrichir l'enseignant, et ça accroît les compétences. C'est très émouvant de voir un enseignant qui vous dit « mais moi je m'étais jamais rendu compte que cet enfant-là pouvait faire ceci ou cela ». Vous voyez, on a trop vite fait de les étiqueter, ces enfants.
Au Gabara Doumbo, au Mali aussi, on fait ce pont entre les sciences cognitives et l'éducation ?
Voilà, quand j'entends parler d'intelligence de l'enfant, tout et tout, il y a une dimension qu'il ne faut pas oublier chez nous, c'est qu'il y a des maladies comme la malaria qui impactent gravement sur la créativité de l'enfant. Donc, il nous faut des bonnes têtes. Et pour avoir ces bonnes têtes, nous voulons facturer dans l'éducation pour la santé contre la malaria, dans ce genre de programme, pour que l'enfant puisse être un éducateur de père de son collègue qui n'a pas été à l'école dans le village. Donc ça aussi, c'est une dimension que nous voulons facturer dans ce programme au Mali.
Oui.
Et en demandant à la plasticité de l'enfant qui peut apprendre en s'amusant et en expérimentant. C'est l'enfant, en fait, c'est ça. L'enfant, il faut qu'il s'amuse dans ce qu'il fait et qu'il ait le goût de tester et lui-même par sa main et par sa tête. Donc c'est à ces deux dimensions que nous voulons nous adresser en amenant ce programme au Mali.
Et on voit les répercussions extrêmement importantes de cette démarche puisque ça peut impacter aussi le domaine de la santé avec le paludisme qui est une réalité sanitaire très concrète chez vous.
Absolument, ça doit impacter parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut mobiliser l'ensemble des couches de la société pour que chacun joue son rôle dans la lutte contre le paludisme. Et il suffit de montrer à un enfant qui a perdu son frère ou sa sœur par suite de la malaria pour lui dire que cette maladie est due à un moustique pendant la saison de pluie, comment ça se reproduit, on peut se protéger avec des moustiquaires, des médicaments. Ces messages qu'il a reçus à l'école, il va immédiatement l'amplifier dans sa famille et à côté de ses pairs. Et ça, c'est beaucoup plus prenant que l'ensemble des programmes éducatifs pour la santé. Donc c'est une voie vraiment essentielle pour utiliser cette plasticité, réceptivité du cerveau de l'enfant pour faire passer des messages éducatifs pour accompagner les programmes de lutte pour la santé.
Ouais, ça, c'est du concret, hein, Elena, parce qu'il est lié. Je crois que tout le monde est extrêmement attentif à ce que nous dit justement Ogabara.
Ça, c'est du concret. Je voudrais ajouter un autre exemple concret. On est arrivé avec un petit objet qui coûte rien, du papier toilette, dans lequel, avec des trous et des ficelles, on fabrique un objet mystérieux que les enfants doivent manipuler pour comprendre comment ça marche. Je me suis trouvée dans une classe avec un enfant qui ne parlait pas le français, mais qui voulait rester dans la classe des sciences. Il ne voulait pas bouger, il voulait faire des sciences ce jour-là. Il était un peu à l'écart du groupe parce qu'il ne pouvait pas communiquer avec les autres, dire qu'est-ce qu'il aurait voulu faire. Je lui ai donné du papier toilette, naturellement, des ficelles. Et du coup, son intelligence, sa créativité a pu se déployer complètement. Il a commencé à rire, il a pris les objets, il a fabriqué des trous, il a fabriqué un modèle, il me l'a montré. Et du coup, il a couru vers le groupe de ses copains avec lesquels il ne pouvait pas parler. Il leur a montré l'objet, il a tiré sur les ficelles et tous ensemble, ils ont continué à travailler sur ce modèle. Voilà un petit objet qui ne coûte vraiment rien du tout, mais qui peut parler à cette intelligence à tous les niveaux pour tous les enfants.
Voilà, et c'est un des nombreux exemples, Alena, de ce qui se fait à la main à la pâte, hein, mais pas seulement.
Tout à fait.
Et c'est aujourd'hui donc votre anniversaire à la Sorbonne pour ce 20e donc printemps de la main à la pâte. Une association des amis de la main à la pâte va naître très très bientôt. On met toutes les références sur le site évidemment de la Tête au Carré. Je remercie vraiment beaucoup à tous et à toutes d'être venus aujourd'hui et nous parler de vos expériences respectives. Merci Xavier Combes pour cette traduction en anglais de nos amis américains et chiliens. Fêtez bien donc cette main à la pâte en France et puis bon retour dans vos pays respectifs. Merci beaucoup d'être venu cet après-midi nous en parler au micro de la Tête au Carré. Merci à tous. Ainsi s'achève cette émission pour aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr la réécouter en podcast sur franceinter.fr. Merci à Violaine Ballet qui était à la réalisation et Jean-Michel Montu pour la programmation musicale de l'émission. Dans un instant, ce sera Fabrice Drouel avec Affaires Sensibles. Passez une bonne journée. On se retrouve demain en direct pour une nouvelle Tête au Carré.